Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Je suis aujourd'hui au Plessis-aux-Bois en compagnie de Diane de Longmar, qui est sculptrice et qui va nous expliquer son parcours artistique et ce qu'elle travaille. Est-ce que tu peux nous dire comment tu en es venue donc être sculptrice ? Qu'est-ce qui t'a tenté dans cette discipline artistique ?
Il n'y a pas d'explication. J'ai toujours travaillé le bois, petite fille, même enfant, même vraiment petit enfant, sans qu'on ait jamais trop compris pourquoi. J'ai donc été attirée par le matériau bois. C'était comme une sorte d'évidence. Alors c'est devenu une chose un peu plus sérieuse avec le temps. On a donc pris au sérieux mon affaire assez vite. En fait, j'ai fait les beaux-arts dessins, parce que je dessinais aussi beaucoup, comme ça, sans avoir été poussée à quoi que ce soit. Et c'est ensuite que je suis revenue à la sculpture par une série de ricochets. De rencontres, essentiellement. Tu rencontres quelqu'un qui te parle d'un lieu, d'un atelier. J'ai donc été beaucoup dans des ateliers. On apprenait les techniques. C'était plus technique, c'est très technique la sculpture. Il faut savoir comment manipuler les outils, il faut savoir affûter, et il faut savoir ce que c'est qu'un moule. Il y a des tas de choses techniques avant même de savoir ensuite faire quelque chose d'intéressant ou pas. Et j'ai été très vite, et donc finalement très rapidement, surtout attirée par la taille du bois, justement. Et là, alors là, c'est pareil, un jour quelqu'un est arrivé avec un morceau de buis, et je me suis passionnée pour le buis. Et c'est un bois magnifique qui est aussi dur que l'ébène, qui est jaune, qui est extrêmement dur, ce qui est une très grande qualité pour le bois. Et c'est un grain très fin. Fin, ça veut dire qu'il n'y a pas de fil. Et donc j'ai travaillé sur ce matériau. Alors j'ai couru dans le Mâconnais où il y a des forêts de buis. J'ai arrêté de travailler le buis parce que ce qui s'est passé, c'est que avec le temps, j'ai eu envie de passer à des formats plus grands. Donc, il a fallu que je passe à autre chose. Enfin, il y a eu un jour quelqu'un qui m'a demandé de faire une table, ce qui n'avait strictement rien à voir avec ce que je faisais à l'époque. Avec le buis, je faisais essentiellement des visages déjà et des formes. Ça a toujours été figuratif. Et donc, cette table m'a embarqué dans tout à fait autre chose et j'ai donc dû m'intéresser à la pierre, faire une table qui devait être dehors. Donc d'un coup, j'ai quitté le bois et je me suis intéressée au granit parce qu'à l'époque, j'étais en Bretagne. Puis je me suis mis à taper sur du granit. J'ai adoré ça. Bon, alors là, ça s'est résumé à des formes extrêmement simples, des trapèzes, des formes par épipèdes. Et j'ai commencé à faire des tables. Et puis du granit, je suis revenue au bois. J'ai souvent passé d'une matière à une autre en revenant finalement au bois. Pendant, ça a duré bien 25 ans. Et un jour, c'est pareil, j'ai rencontré quelqu'un qui était à l'époque parisien et qui tenait une galerie et qui m'a dit « Diane, il faut que tu... Je les vois très grands, allez, vas-y. » Alors bon, alors là, je suis repartie à chercher des troncs d'arbres. Et ça a été une aventure incroyable. J'ai adoré parce que je partais comme ça. J'allais dans les forêts et j'allais chercher, puis je regardais. Et... Alors j'ai eu affaire à des gens avec qui j'étais pas très habituée, des gros bûcherons là, qui savaient pas du tout ce que c'est que cette petite bonne femme venait faire là-dedans. Et c'était assez drôle. Mais dans le fond, je me suis fait... respectés et ils ont été quand même un peu surpris par
ils voyaient le résultat
par ce que je faisais. Mais oui, parce qu'on arrivait dans l'atelier avec les billes de bois, je leur disais, parce qu'ils m'aidaient au départ avec ces très très grosses tronçonneuses à dégrossir. À l'époque, j'étais en Anjou. En Anjou, j'ai commencé ce que j'appelle les grands bois. C'est une grande série qui a duré peut-être 10 ans et qui donc consiste à dégrossir des troncs d'arbres, leur donnant la forme d'un mur, d'où sort une forme humaine esquissée. Toujours de profil, et qu'on doit voir de dos déjà. Ça a duré un certain temps, et puis un jour, on ne sait pas pourquoi, je suis passée à autre chose. Il y a souvent assez peu de raisons, il y a souvent assez peu d'explications. Ça vient comme ça. Il y a les commandes, il y a des éléments extérieurs qui t'influencent, qui te poussent vers une direction. Des gens qui ont des idées, par exemple, un jour j'ai dû illustrer un livre de poèmes. À l'époque, j'ai toujours travaillé le dessin en parallèle. Je continue toujours aujourd'hui. À l'époque, je travaillais le fusain uniquement. Et cette personne était intéressée par ce que je faisais, mais pour une illustration éditée, une édition, on s'est aperçu que le fusain, ça ne conviendrait pas. Et je me suis mis à l'encre pour l'édition, tu vois. Et je fais toujours de l'encre. C'était il y a 20 ans. Hein. Et j'ai découvert ce matériau.
T'es toujours curieuse.
Fantastique. En fait,
de nouveaux matériaux à chaque fois.
Et alors, je travaille toujours l'encre, et définitivement, parce qu'il y a un truc que j'adore dans l'encre. C'est tout à fait similaire à la taille du bois, c'est-à-dire que le geste est définitif, tu ne peux pas revenir. Voilà, et je suis très à l'aise avec les techniques de taille ou de retrait quand le geste est définitif. Ça me permet de travailler, c'est-à-dire que j'ai une très forte concentration. Si je commence à travailler avec un crayon à papier, par exemple, que tu gommes, je ne me concentre plus, je me détends, et en quelque sorte, je suis moins tendue, justement.
Ça peut être retravaillé
oui,
derrière.
C'est comme la terre, par exemple. Alors, j'ai appris depuis à travailler la terre comme je travaille le bois, c'est-à-dire que je la taille. La terre te permet quand même ce qu'on appelle un repentir. Donc tu peux, si tu n'es pas content d'avoir enlevé ça, tu peux rajouter avec la terre. Ce qui n'est pas finalement pas mal, mais dans le fond, les pièces réussies sont celles sur lesquelles je ne suis pas revenue sur ce que j'ai fait. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors j'ai voulu essayer d'autres choses. J'ai travaillé aussi beaucoup d'acier. Je faisais les maquettes en carton. Une fois que la pièce était faite qu'elle avait sa forme, j'allais chez le chaudronnier, je ponçais et je travaillais la surface.
Qu'est-ce que tu faisais comme type de figure ?
Eh bien là, j'étais toujours dans le même sujet, c'est-à-dire les parois verticales d'où sortait un espèce de silhouette. Donc en fait, c'était la même logique que les grands troncs d'arbres que j'ai déclinés en quelque sorte, qui sont devenus, 15 cm de haut, mais la plupart, elles faisaient 1 mètre en gros.
Et aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, j'ai tenté des choses extrêmement différentes qui me contrarient. Alors, il y en a une là. En fait, c'est de la mousse polyuréthane. Alors, elle est travaillée taillée, pareil. Taillée, mais aussi beaucoup râpée. Et ensuite, enduite. Et ensuite, elle est vouée à être moulée et transformée en plâtre ou en résine ou en bronze.
Et donc, tu peux faire une série, en fait, quasi, c'est ça ?
Mais comme, de manière générale, les petites sont travaillées et elles sont éditées. Je les édite, ce qui me permet d'en faire 8, comme on dit, numérotées, et 4 épreuves d'artiste. C'est génial pour moi, parce que la sculpture se multiplie. Donc je les vends plus que si j'en vendais qu'une.
Et tu fais des moules dans ce cas ?
Ah oui, je fais faire, parce que moi je ne travaille pas le moule, je ne suis pas mouleur, c'est un métier, et je ne suis pas fondeur bien sûr, donc tous les tirages en bronze ou en plâtre ou même en résine sont faits par un mouleur qui habite pas loin, travaille avec 2 personnes différentes. Et le fondeur qui est par hasard près de Vesoul.
Et là, tu disais que tu n'étais pas très satisfaite. Donc... Ouais.
Oui, parce que moi, l'extrême beauté du travail, enfin, avec le bois, il y a un combat. Il y a vraiment un combat, mais un combat amoureux. Hein, c'est extraordinaire ce qui se passe entre toi, l'outil, et la pièce de bois. Il se passe quelque chose de particulier. Et j'aime ça. Avec la terre, c'est pareil. La matière première est belle. Même le plâtre est un matériau en fait extraordinaire. J'adore travailler le plâtre en direct aussi, un plâtre durci qu'on retravaille pareil. La mousse polyuréthane, c'est exactement effrayant comme matière. C'est une matière qui est moche, inerte et
oui,
qui est très triste.
Pas noble, en fait.
Très triste.
On est dans autre chose, quoi.
On est dans un matériau qui est vraiment là pour pouvoir sortir une pièce technique.
Comment ça se fait que tu te sois lancée dans cette mousse ?
Parce que je n'ai plus de bras. Dès que je recommence à taper, au bout d'un quart d'heure, c'est fini, je ne peux plus, tellement j'ai mal. Je ne peux plus taper. Donc je ne peux plus travailler en grande dimension dans le bois. Donc en fait, j'essaye doucement, mais là c'était l'année dernière, là j'ai arrêté depuis quelques mois, j'ai repris le dessin beaucoup. J'hésite à continuer, même si il m'est arrivé des choses très intéressantes avec la mousse, malgré tout. Ça me déplaît d'avoir réussi à faire quelque chose de bien avec cette matière. Mais je dois l'avouer que ça m'a entraînée. Alors ça, c'est ça qui est extraordinaire avec les matériaux. C'est que ça t'entraîne vers quelque chose que tu n'avais pas forcément prévu. Avec le bois, je fais quelque chose que je ne fais pas. Avec la terre, que je ne fais pas. Avec l'acier, et il y a les fils de fer aussi.
C'est une possibilité pour continuer sans faire trop mal.
Ça me permet de reprendre des dimensions hautes.
Ouais.
Le dessin a toujours été en deuxième position.
Il y a peut-être d'autres matières qui existent que tu pourrais quand même travailler.
Tout chercher. Ah non, parce qu'à partir du moment où on cherche la taille, il faut que ce soit dur, faut que ce soit net. Tu sais, je vois là, justement, je regardais dans le palais de Tokyo, il y a un type qui a fait des toiles d'araignées complètement dingues, c'est extraordinaire.
Et c'est un monde dans lequel je ne me sens pas à l'aise. Je trouve ça extraordinaire d'arriver dans le vide. Tu vois, c'est, on travaille le vide. Je suis dans le plein.
Oui.
Et je suis dans le plein, je suis dans le masse, je suis comme ça.
Alors, j'ai besoin d'une matière dense, en fait.
Oui, alors j'ai beaucoup travaillé le fil de fer. Mm-hmm. Ça reste, ça devient du dessin, à nouveau. Et ça m'a beaucoup intéressée. Alors là, c'était presque un jeu. Parce que j'adore dessiner, donc tout de suite je m'amuse avec le dessin. Mais c'est justement, je m'amuse presque trop et je passe juste à côté du moment où il se passe quelque chose, en fait. Parce que ça reste presque trop facile, ou je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas, parce qu'il ne faut pas que ce soit difficile, mais il n'y a presque pas assez de mystère ou quelque chose. J'ai pourtant beaucoup travaillé le fil d'alu. Et ça reste un plaisir et je le fais encore. Parce que je travaille sur des gros diamètres et je peux mettre ça dehors et elles tiennent sur leur socle. Elles sont en mouvement.
Elles se transforment.
Je les appelle les étoiles filantes. C'est comme des grosses dondons qui tombent ou qui tombent dans l'eau. Et je me suis beaucoup amusée avec l'eau. Et puis surtout, elles sont très mobiles. Tu vois, alors que mes masses sont plutôt statiques.
Tu peux nous dire, donc les outils que tu utilises, c'est... Où ça a été, mais la tronçonneuse, la hache, et quoi d'autre en fait?
Alors, pour le bois, bien sûr, c'est tronçonneuse, hache et la gouge. Et la hache, c'est un outil fantastique. Il faut une grosse maîtrise et il faut être très costaud. Oui, et puis c'est vrai qu'il faut de la force. J'ai abusé, j'ai été beaucoup trop fort. Mais la tronçonneuse, c'est un outil qui facilite, parce que forcément, d'un coup, t'enlèves un gros morceau. Là, c'est... la tronçonneuse avec laquelle je travaille est la plus petite qu'il soit sur le marché, électrique, donc extrêmement légère. Donc je pouvais la mettre au-dessus de la tête, sans danger, mais j'étais très concentrée, bien sûr.
C'était facile à travailler, parce que j'ai du mal à imaginer, en fait, pour arriver à une forme particulière, où alors t'avais pas d'objectif, t'en avais forcément
un. Si, si, il y en a toujours
un. Tu pouvais être surprise aussi.
Mais ça va lentement, c'est ça qu'on a du mal à imaginer, qu'on n'est pas là à faire à toute vitesse. Moi, en tout cas, je passais énormément de temps à observer l'arbre, mais parfois, des semaines, je m'asseyais, je regardais le tronc d'arbre, et je tournais autour, jusqu'à ce que quelque chose me semblait... tiens, ça y est, c'est là, et je m'y tenais. Et je, doucement, très doucement, c'est pas parce que c'est une tronçonneuse qu'on fonce, hein, c'est... Et d'abord, je m'attaquais à des très très grosses pièces. Ça m'est arrivé très rarement un mauvais geste. Très rarement, parce que je vais lentement. Et c'est long, du coup le travail est long, mais c'est ça qui est bien.
Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont inspiré dans ton travail?
Bien entendu. Mais des artistes qui n'ont rien à voir avec ce que je fais.
Tu peux nous dire?
Giacometti, c'est le sublime Giacometti qui m'a littéralement fascinée. J'ai jamais rien fait qui ressemble à un Giacometti. Et j'ai énormément apprécié Baselitz, évidemment, qui travaille à la tronçonneuse, mais lui comme un dingue. Mais ce qu'il fait est extraordinaire. Évidemment, Brancusi. Ces gens-là sont extrêmement loin de ce que je fais.
Et là, tu as travaillé le bronze, de ce que je vois, tes statuettes.
Et je fais faire des tirages. Oui. Moi, je travaille la pièce, elle est en terre, ou en bois, ou en plâtre. C'est moulé, et ensuite, ça va dans une fonderie. Encore un monde fascinant.
Et ça, tu suis le travail de près?
Là, c'est fantastique. Alors, au début, après, quand on a bien compris, j'y suis allée, bien sûr, que de gens passionnés qui sont des grands artisans.
Et tu participes à différentes expositions?
J'expose presque deux fois par an, si, voire plus.
On peut voir ton travail facilement, t'as un site internet.
Alors bien sûr, les sites internet, mais ça c'est la nouvelle manie. Tu vois un Giacometti sur internet, tu comprends rien. Tu vois une espèce de machin.
Mais justement pour trouver les dates de tes expositions.
Oui, bien sûr.
Ça de
évidemment. On transmet toujours tout sur internet. Mm-hmm. J'ai exposé deux, trois fois l'année dernière à Paris et dans le coin. On organise une exposition chaque année ici, et j'y tiens beaucoup, et qui est l'occasion d'inviter des artistes, d'autres artistes, à venir exposer. Et c'est une exposition qui dure 10 jours et qui est un grand moment de partage très joyeux.
C'est toi qui choisis évidemment les artistes.
Ah oui,
il y en a qui reviennent régulièrement.
Oui, bien sûr. Ouais. Il y en a qui reviennent et on finit par être un groupe. On se connaît maintenant un peu tous. Et j'essaye de renouveler, mais il y a ceux qui reviennent un peu régulièrement. Ouais.
C'était Anne-Laure pour RVM. J'étais avec Diane de Longmar, qui est sculptrice sur bois principalement et qui est installée au Plessis-aux-Bois. À bientôt sur RVM, la radio qui vous écoute.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
À très vite sur l'antenne d'RVM.